Le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Et nous ne cessons pas de prier pour frère Eliom. Il était retourné à l'hôpital et il est retourné chez lui. Continuons à prier pour son rétablissement parfait. Puisque la prière fervent du juste à une grande efficacité. Nous allons lire deux versets pour notre prédication ce matin. Le premier, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Et titre, chapitre 1er, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et titre, chapitre 1er, verset 5. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tite, chapitre 5, chapitre 1er, le verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Parole du Seigneur. Amen. L'homme au service de Dieu. C'est le titre de notre prédication ce matin. Puisque dans les deux passages, nous voyons que l'appel est fait aux hommes. La Bible nous montre que l'homme a été fait à l'image de Dieu pour l'adorer et le servir. Il est composé de corps, âme et esprit. C'est aux hommes que Dieu a confié la responsabilité de son Église. Et nous allons méditer sur l'attitude de l'homme qui a la charge de diriger l'Église de Jésus-Christ. Nous allons méditer sur sa fidélité, sa capacité et ses qualités. Et ensuite, nous allons méditer sur l'organisation de l'Église de Jésus-Christ. Timothée, à qui la première lettre est adressée, était le disciple le plus fidèle de Paul et un collaborateur dévoué. Dans le libellé de la lettre de Paul à Tite, on retrouve des instructions identiques concernant la nomination des responsables d'église. Toutes ces trois lettres était adressé aux hommes qui avaient endossé des responsabilités pastorales. Elle traite de l'ordre au sein de l'Église, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu ne veut pas le désordre, parce que c'est un Dieu d'ordre. Il est à constater que cette responsabilité n'était pas confiée aux femmes, bien qu'elles soient douées et formées. Choisis des hommes. Donc l'accent est mis aussi sur la fidélité des dirigeants. Un homme fidèle est celui qui s'attache à son engagement de façon constante et qui ne s'écarte pas de la vérité. Il est au poste. Comme un sentinelle, on peut compter sur lui. Ça veut dire, si nous savons que X, Y, frère ou sœur est responsable de tel ministère, eh bien, quand il y a besoin, nous avons l'assurance que ce besoin va être satisfait. Parce que cette sœur ou ce frère est fidèle en tant que responsable. L'homme fidèle donne son temps au travail de Dieu, donne sa volonté, sa disposition, son savoir au service de Dieu. Il a donné une priorité. Il voit d'abord servir Dieu avant de se servir lui-même. Il est fidèle parce que c'est un engagement. Jérémie, dans ses lamentations, a exalté la fidélité de Dieu. Nous connaissons tous le passage, Lamentations 3 à 26. À la fin, il dit, « Oh, oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. » Si nous sommes infidèles, Christ demeure fidèle, car sa fidélité envers nous ne dépend pas de notre fidélité à son égard. Vous voyez le contraste. Nous n'aimons pas Dieu et il nous aime. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu et il est fidèle à nous. Ce que le Seigneur demande aux dispensateurs, c'est que chacun de nous soit fidèle dans l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Il ne nous demande pas grand-chose, c'est de rester fidèle en tant que dispensateur de la parole de Dieu. Le dirigeant doit avoir non seulement cette fidélité, mais aussi il doit avoir une capacité d'enseigner. Parce qu'aujourd'hui, à tort et à travers, nous retrouvons des fausses doctrines qui sont enseignées. Des faux docteurs, des faux prédicateurs, des faux prophètes. Et voilà pourquoi celui qui est responsable de l'Église de Jésus-Christ doit avoir une capacité d'enseigner sa parole selon les Écritures, sans ajouter et sans retirer rien de ce qui est écrit. Le responsable doit avoir aussi une bonne santé physique, mentale et sociale, avec une capacité spirituelle et intellectuelle. Si nous étions malades ce matin, toutes les chaises seraient vides. Mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes en bonne santé pour venir ce matin l'adorer et exalter son nom. Et si nous sommes en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a plein de personnes en ce moment même dans les hôpitaux qui ne peuvent pas respirer, qui ne peuvent pas se mettre debout, qui ne peuvent pas parler, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là ce matin. Il nous reste seulement à dire merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Et cette capacité permet aux responsables de transmettre la parole de Dieu aux autres. Il fut un temps en Haïti, les croyants étaient appelés l'évangile tête marée. Des gens résignés et analphabètes. Ça veut dire que c'est tout un évangile de résignation. Maintenant, nous avons des hommes formés et cultivés, des avocats, des médecins, des ingénieurs. Et le temple de Bolos, dont j'étais membre, fut construit par deux ingénieurs de ses membres. L'actuel premier ministre est fils d'un pasteur. Il est médecin néologue. Et ma sœur était paralysée, je vous dis, dans le vrai sens du mot, paralysée. Ses pieds étaient pliés, elle ne pouvait pas se mettre debout. Eh bien, elle était opérée par le docteur. Aujourd'hui, ma sœur se tient sur ses deux pieds, marche et loue le nom de l'Éternel. Et en plus de ça, son enfant devient médecin. Son enfant est médecin aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le travail de Dieu. Les disciples étaient choisis, formés et envoyés pour témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Toute capacité que nous avons vient de Dieu pour son service. Avec ses dons, nous pouvons avoir des responsabilités dans son ministère. Parce que c'est l'Esprit qui donne des dons. À chacun de nous, il y a un don distribué par l'Esprit. Paul était élevé au pied de Gamaliel. Et le Seigneur dit à Ananias, cet homme, Saul qui est devenu aujourd'hui Paul, regardons ce qui est écrit dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, verset 15, nous lisons, le Seigneur dit à Ananias. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Chacun de nous, ce matin, est un choix de Dieu. Nous sommes tous des appelés de Dieu. Parce que Dieu, dans sa prescience, avait tout prévu. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Et l'Éternel dit à Moïse dans Exode 31, verset 2. Dans Exode 31, verset 1 et verset 2, nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hut, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit et de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Toute connaissance vient de Dieu. Toute connaissance. Daniel l'a dit aussi. Dieu donne à Salomon des connaissances multipliées comme le sable de la mer. Il est notre père de sagesse. Voilà pourquoi il est écrit dans Job 34, verset 3. L'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Nous avons besoin de ces capacités pour les mettre au service de Dieu. Il n'a jamais été un seul homme qui soit capable de tout dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un travail d'équipe. Dans l'Église d'Antioche, des prophètes et des docteurs servaient le Seigneur dans Actes chapitre 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit, pendant que ces hommes servaient le Seigneur, pendant qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je les ai confié. » Il y a toujours des choix. Et quand c'est l'Éternel qui choisit, c'est un bon choix. C'est sa volonté qui se manifeste. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Une fois de plus, l'accent est mis sur le principe de deux hommes travaillant ensemble. Et cette façon de faire est appelée plus tard le ministère de la multiplication. Et c'est la méthode que Dieu lui-même a utilisée pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les apôtres étaient toujours partis deux par deux. Dans le travail de Dieu, nous sommes tous des acteurs et non des spectateurs. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa récompense selon son travail, le travail qu'il a fourni. Il y a, concernant le travail, cette phrase qui fait rire souvent, travaillez plus pour gagner plus. Si vous travaillez plus pour la gloire de Dieu, vous recevrez plus de récompenses pour lui. Parce que même pour un verre d'eau froide que vous donnez à quelqu'un, vous recevrez des récompenses pour ça. Parce que le Seigneur n'est pas quelqu'un pour qui on travaille qui ne va pas vous payer pour ce que vous faites. Et non seulement fidélité, capacité, il faut avoir aussi des qualités. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Des hommes fidèles et capables à qui est confiée la transmission de la saine doctrine doivent être irréprochables. Modestes, hospitaliers, modérés, justes et tempérants. Le dirigeant doit avoir toutes ses qualités. Ils ne doivent pas être ni arrogants, ni coléreux, ni violents. C'est les qualités acquises d'un dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, il est très difficile de trouver un homme irréprochable pour diriger l'église locale. Il est très difficile. Jésus avait donné l'exemple dans l'histoire de la femme adultère que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Qui avait lancé la première pierre? Donc, il n'y a pas question aujourd'hui de pasteur, conseiller, diaconesse, diacre. Nous sommes tous responsables dans l'église de Jésus-Christ. Le pasteur ne peut pas venir ce matin pour trouver toutes ses chaises vides et puis il se met à prêcher. Avant notre ère, avant notre époque, Diogène, un philosophe grec, parcourait des rues en plein jour avec une torche allumée. À chaque personne qu'il trouve, il dit : je cherche un homme. Je cherche un homme. À midi, gros soleil, je cherche un homme avec une torche allumée. Un homme vrai, un homme bon, un homme sage. Il le cherchait. David était un homme selon le cœur de Dieu. Au soir de sa vie, il donna ses ordres à Salomon, son fils, lui disant, « Fortifie-toi et sois un homme. » 1 Roi 2, verset 3. « Fortifie-toi et sois un homme. En suivant fidèlement les ordonnances de l'Éternel, en obéissant fidèlement à ses commandements. Si on n'obéit pas aux ordres de l'Éternel, si on n'observe pas ses commandements, nous ne pouvons pas être un homme fidèle. Tout responsable doit prendre des décisions. Souvent, la responsabilité est un fardeau très lourd. Si vous êtes chez vous, vous avez une responsabilité familiale. Il faut dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Il faut donner leur responsabilité. Si vous administrez, vous êtes directeur dans une administration, eh bien, il y a toujours des décisions. Hein? Il y a toujours des décisions. Parce que c'est à lui de prendre des décisions. Le directeur, le PDG, le chef de service. Et ainsi, cette décision vient de la tête pour mettre en exécution. Le général, on ne le voit jamais pas. On ne le voit pas sur le terrain où il y a des tirs. C'est toujours les soldats, hein, mes frères et sœurs. C'est toujours les soldats. Mais après, quand il y a la victoire, eh bien, c'est le général. On parle de lui, c'est un homme fort, c'est un homme brave. Et pourtant, c'est les soldats qui sont tués. Parce que c'est à lui de prendre des décisions. Il peut y avoir des erreurs. Eh oui. Car l'erreur est inhérente à la nature humaine. Qui n'a pas fait d'erreur? Ils me le disent. Sauf celui qui n'agit pas. Qui n'a pas fait d'erreur. Mais dès que vous agissez, il y a erreur. Parce qu'on est humain. Oui, parce qu'on est humain. Nous avons besoin, tous, de mentors pour accomplir notre tâche. Pasteur Aldo est mon mentor. Grâce à ses enseignements, ma connaissance dans la parole de Dieu est accrue de progrès en progrès. Parce que j'assiste à ces études. Je puise, je prends. Et ma connaissance s'accroît. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire ici, quand il y a les études bibliques, venez. Quand dimanche, avant de commencer, il y a des études, venez. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment allez-vous faire en face des témoins de Jéhovah, des mormons, de toutes les sectes qui nous attendent dehors, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ce serait difficile de nous défendre. Dans l'Ancien Testament, Moïse courbait sous le poids d'une responsabilité. Il se tournait vers Jéthro, son beau-père, qui lui prodiguait des conseils. Il faut donner des délégations d'autorité dans la responsabilité. Regardons dans Exode, qu'est-ce que Jéthro a conseillé à son beau fils. Exode chapitre 18. Dans Exode 18, le verset 18, Jéthro dit, tu t'épuises toi-même, Jéthro, et tu épuises ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Verset 18. Il continue. Verset 21 et 22. Il dit à Moïse, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Et Moïse avait entendu les conseils que son beau-père lui avait donné. Dans le verset 25 et 26, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Et le compte était réglé. Moïse avait le temps de se reposer. Moïse avait le temps de manger. Moïse avait le temps de prendre son bain à la maison parce que le travail, la responsabilité était partagée. C'est comme à la maison d'aujourd'hui. Les enfants ne veulent plus aider les parents. Les parents qui ont tout supporté, maintenant qui ont besoin de votre aide, vous ne voulez pas? Les vaisselles ne sont pas faites alors que vous avez fini de manger? Les lits ne sont pas... Il n'y a pas de serpillères qui sont passées dans la maison. Toujours c'est maman ou papa. Il faut partager la responsabilité. Oui, il faut partager. Nous venons d'entendre par Frère Roland ici, nous avons un villa pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Un villa par rapport à tout ce que nous voyons aux environs de nous. Mais avant de venir ici, souvenez-vous comment vous étiez. Aujourd'hui, on s'installe très à l'aise. Et c'est bien pour la gloire de Dieu. Hein? Oui, Dieu, il est content de nous. Mais il ne faut pas oublier d'où nous venons pour arriver là. Quand on est rentré en France, il faut avoir un titre, un hébergement ou bien un loyer. Il faut avoir un titre de séjour. Il faut avoir un emploi. Mais vous êtes rentré, vous, soit les enfants, vous trouvez la maison tout embellie. Vous rentrez, vous êtes content, vous avez votre chambre, et on arrive même à ne pas pouvoir entrer dans la chambre, il faut frapper en tant que papa, en tant que maman. Mais est-ce que vous savez, avant d'arriver là, ce que maman et papa avaient subi? Ils ont tout supporté, les parents, avant d'arriver là où vous êtes. C'est les parents qui ont supporté les humiliations pour arriver là. Il faut dire merci, au moins pour prouver nos gratitudes, nos reconnaissances envers eux. Et voilà pourquoi il faut dire toujours merci Seigneur quand nous sommes rentrés ici. Parce qu'en France, je vois comment ça se passe. Trouver un village comme ça pour servir le Seigneur, c'est pas facile, hein? Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Il faut toujours être reconnaissant envers le Seigneur pour ce local qu'il nous donne. Toujours. Et toujours. Moïse était soulagé. Et le travail continue. Moïse était le mentor de Josué. Élie était le mentor de Élisée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul était le mentor de Timothée et de Tite. Paul avait considéré Timothée comme un bon soldat. Et il l'avait exhorté de supporter les souffrances puisque les soldats sont au péril de leur vie. Et nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Non seulement après toutes ces qualités, mais l'Église de Jésus-Christ doit être organisée. L'Église doit être une structure organisée. Tite était un envoyé fidèle auprès de l'Église de Corinthe, dans laquelle régnait quelques désordres. Fanatisme, division, clan, débauche étaient au quotidien. Et regardez ce que Tite, il a fait dans 2 Corinthiens 8, verset 6 et verset 7. 2 Corinthiens 8, verset 6 et verset 7. Nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et c'est Tite qui était parti là-bas pour encourager l'Église Corinthe qui vivait d'une façon désordonnée. Tite était chargé d'organiser l'église de Crète, d'y établir des conducteurs fidèles et irréprochables. Il devait mettre en ordre ce qui restait à régler en nommant des anciens dans chaque ville. Tout responsable doit prendre des décisions pour le bon fonctionnement du ministère. Il est appelé à organiser, réorganiser, à établir l'ordre, à se mettre à l'écoute des autres. Parce qu'on a souvent besoin des conseils. Le responsable est là pour enseigner, administrer, gérer, changer, planifier et diriger suivant le besoin. On ne voit pas d'autres personnes très souvent dans tout ce qui se fait dans une administration. C'est la tête qu'on voit d'abord. Hein? Et il y avait une sorte de leadership dans l'église d'Éphèse qui était bien ordonnée. Dans Éphésiens 4, verset 12, il y avait des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, hein? Chacun avait un rôle dans l'administration de l'Église de Jésus-Christ. Et Paul nous exhorte à honorer les dirigeants, à prier pour nos dirigeants, à les apprécier, à les respecter et à avoir beaucoup d'affection pour eux. Est-ce que c'est comme ça ce matin? Nous avons l'habitude de prier pour nos dirigeants, les honorer, les respecter. Est-ce que c'est comme ça? C'est biblique, hein? L'Église avec ses dirigeants doit vivre ensemble dans la paix. Étant donc justifié par la foi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix avec Christ. Bon, si Christ habite en nous, pourquoi ne pas avoir la paix entre nous? C'est une paix partagée. Frères et sœurs, nous servons un Dieu d'ordre et véritable, qui cherche des hommes fidèles, qui soient capables de transmettre la vérité de sa parole. Qui? Est-ce que c'est ailleurs qu'il doit prendre ou bien chez nous? C'est chez nous. Tous les dirigeants de l'église locale doivent rester fidèles dans le travail de Dieu, quel que soit leur ministère. Ici, nous avons plusieurs ministères. Le corps des conseils est un ministère. Le pastorat est un ministère. Ceux qui font la louange, c'est un ministère. La musique, c'est un ministère. Quand les enfants partent derrière pour instruire de la parole de Dieu, c'est un ministère. Quand les dames sont montées ici pour chanter la gloire de Dieu, c'est un ministère. Et nous devons y rester fidèles, mes frères et sœurs, fidèles. Parce que ce n'est pas le travail du pasteur, c'est le travail de Dieu. Nous sommes tous réunis ici pour glorifier Dieu, pour louer Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fera pour nous, pour ses bienfaits. C'est une responsabilité que nous avons de rester fidèles. Quand nous marchons selon l'Esprit, quand nous sommes dirigés par l'Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être des hommes fidèles et irréprochables pour le ministère de Dieu. Quand nous avons tous les fruits de l'Esprit qui sont toujours en nous, là où nous pouvons lire Galates 5, verset 22, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être fidèles et irréprochables dans le ministère de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous dirige selon son dessein et qu'il nous bénisse dans son ministère. Amen. Thank you.